Allez, on démarre. Alors, on est d'Aflamet Dalet ou Noun. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est Rabbi Yochanan qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va voir un petit peu quel lien un peu il y avait avant. Maï Dirti, c'est marqué un passouk dans Michelet. Donc, Michelet, vous savez que ça a été composé par Shlomo. Il y a plusieurs grands textes qui ont été. Enfin, Tehilim, ça a été composé par David Ameler. Shlomo, son fils, il a composé Kohelet, Michelet, etc., Shira Shiri. Et donc, dans Michelet, c'est les proverbes, c'est ce fameux paragraphe de Eshet Chayil. D'accord ? Shlomo Ameler, il a composé un passage où il loue la femme vertueuse, toutes les qualités de la femme juive par excellence. Et dans ce paragraphe, il dit ce verset. Donc, au début, il parle que la femme juive, elle se sacrifie, elle a toujours de bons conseils, etc. La nuit, sa lampe est allumée, etc. Bon, la femme juive par excellence, nos mères, on va dire. Comme ça, je touche vers ça. je connais le cours. Il va dire non, mais
on le lit plus le vendredi dans les synagogues.
Pourquoi? Non, mais non, jamais on l'a lu dans les synagogues. Ça se lit à la maison.
Mais
je trahis.
Et je trahis. Normalement, on commence par je trahis et puis après on continue avec Mizmour le David. C'est comme ça qu'on faisait dans la synagogue.
Et je trahis.
Oui.
Ah peut-être. Alors c'est possible. Normalement, on fait à la maison avant qu'il douche. On fait Shalom Aleichem. Et je trahis et le qui douche. D'accord. Alors, et donc dans ce Eshet Chayil, c'est marqué comme ça, Pia Patra Bechokhma. Donc, et bien évidemment, ça ne parle pas que de la femme, il n'a pas fait un. Enfin, il aurait pu, hein, mais il n'a pas fait que sur la femme, il y a beaucoup de symbolique dans ce Eshet Chayil. Et il y a un verset, il dit comme ça, Pia, sa bouche, Patra Bechokhma, elle l'a ouverte avec sagesse, elle est de bons conseils, Vetorat Chesed Aleshona. Et elle a toujours des enseignements de bonté, de générosité sur sa langue. Alors, il dit, Knegedmi Amar Shlomo Mikrasé. Par rapport à qui est-ce que Shlomo Ameler, il a dit ce verset? Bien sûr qu'il est Shlomo Ameler, il pouvait parler de sa femme, il pouvait parler de la femme juive en général, mais dans le sens allusif. Par rapport à qui il a dit qu'il y a un personnage qui a ouvert sa bouche Bechokhma. Et Torah Tresed al-Leshona. Et non seulement c'est de la chokhma, mais c'est un enseignement de chesed, de bonté. De qui il parlait? La Gemara dit, lo amaro et la keneged David aviv. De façon paradoxale, la Gemara dit qu'il s'est adressé dans ce verset par rapport à son père, David Amer. Pourquoi? Shedar bachamisha olamot ve'amar shira. Que David Amer a vécu 5 mondes. Donc 5 mondes, ça veut dire 5... période de sa vie, 5 regards sur le monde, on va dire comme ça, c'est la Gemara appelle ça des mondes, Gamar Shira, et sur chacun de ces mondes, David Ameler, il a dit une Shira, une louange à Hachem. Et c'est quand Shlomo Ameler, il a vu la sagesse de son père, il a compris avec recul ce qu'il disait, c'est là-dessus qu'il dit, il a ouvert, bien que c'est au féminin, c'est en vérité, on va voir pourquoi il parle au féminin, il dit, sa bouche a été ouverte avec sagesse. On va voir de qui parler. Et la Gemara dit, quels sont ces 5 mondes, ces 5 périodes de la vie de David Ameler, dans lesquelles il s'est exprimé. Le premier monde, donc en réalité ce que va dire la Gemara, c'est les 5 phases de la vie d'un homme. Dar, Bema et Imo. Le roi David, il a perçu, pas au moment, mais a posteriori, il a vécu dans le ventre de sa mère, protégé, vers Marchira, et il a dit un chant, non pas à ce moment-là, mais il a dit un chant qui concernait la vie in utero. Chez Nehema, comme c'est marqué, tout ça c'est des versets de Tehilim, et donc vous verrez que ce sont des versets sur le psaume 103 et le psaume 104, qui contiennent, c'est le psaume qu'on lit à Rosh Chodesh, exactement. Dans ce psaume de Rosh Chodesh, le roi Shlomo s'est rendu compte que 5 fois, David Amalek, il va dire « Barchi Navshi », que mon âme loue. D'accord? Donc il dit « Pourquoi cette répétition de plusieurs fois mon âme loue ?» Et donc il a, en analysant les versets où il y avait ce passouk-là, il s'est rendu compte que son père, le roi David, son âme louait l'Éternel sur les phases de la vie qu'il avait vécues. Et donc la première phase, et voilà pourquoi c'est Nafshi, et c'est le verset au début, Pia Patra Bechochma, c'est au féminin, parce que c'est l'âme, c'est pas le roi David, c'est son âme, et donc ce sont presque des versets, on va dire, prophétiques, ésotériques, mais plus prophétiques. Le premier, il dit comme ça dans Tehilim, Bachi Nafshi et Adonai, Bechol Kerava et Shem Kodesho. Que mon âme, elle va bénir l'Éternel, et mes entrailles vont bénir son nom saint. Donc ça veut dire que on voit qu'ici c'est l'âme qui s'exprime pour bénir Hachem sur les entrailles humaines. Alors quand Shlomo HaMelech il a pris du recul, bon, en fait c'est en corrélant tous les Bachi Nafshi qui s'est rendu compte. Les entrailles, c'est toute la bonté qu'Hachem a fait, alors que l'enfant il est tellement dépendant dans le ventre de sa mère, et il grandit tout seul sur l'œil d'Hachem. Donc toute cette période-là, où en réalité, il n'y a personne qui s'occupe de ce bébé-là, et il grandit tout seul jusqu'à arriver à la naissance. Il y a un très beau verset, je vous le dis parce qu'il est magnifique, une fois qu'on le connaît, après on est perturbé de le lire, dans les Davids. Vous savez, depuis le mois de Elul, le début de Elul, on lit un psaume tous les matins, les David Adonai, Yori, Veishri, etc. Bon, je dis le nom de Dieu parce que je dis le verset tout entier, donc il n'y a pas de problème. Et je préfère dire ça que dire Hachem, on ne sait pas de quoi on parle. Donc il dit, Hachem est ma lumière, donc c'est tout un verset qui parle de la protection qu'Hachem fait à l'homme. Il dit, Hachem est ma lumière, c'est ma délivrance, le jour de ma crainte, c'est ma puissance, etc. C'est-à-dire que c'est tout un psaume qu'on lit avant Rosh Hashanah pour dire qu'on approche de Rosh Hashanah avec la confiance qu'Hachem va nous aider et que le jugement, on répétera encore une fois, c'est pas un jugement de punition, c'est un jugement de redistribution des cartes que Hachem il va nous donner. Alors, bien sûr qu'on est jugé sur les actions qu'on a faites, mais Hachem il nous juge avec Rachamim. Et au milieu de ce verset, il y a un passage extraordinaire, je vous le dis, hein, c'est juste c'est une parenthèse.
Le 27.
Comment ?
Pas
exactement,
27,
c'est le psaume 27. Ah, oui, celui-là, le beau psaume 27.
Oui.
Il est très beau, faut dire la traduction.
Oui, 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 oui.
Il dit, donc parmi les bienfaits qu'Hachem nous fait, et ça va nous ramener à la Gemara, qui avivimi azavuni vadona yasfeni. Mon père et ma mère m'ont abandonné et Dieu m'a recueilli. Alors le Midrash, il dit, mais c'est-à-dire quoi? Il était pas orphelin, son père était gentil. Le père de David Améler, c'était Ishaï. C'est un homme bien, et sa mère aussi. Il n'a jamais été abandonné. Comment il peut écrire dans le Tehilim « Mon père et ma mère m'ont abandonné et Dieu m'a recueilli » Et nous, on le dit, nous aussi. Parce que le Tehilim, chacun le reprend à son compte. Tous les psaumes du Tehilim, Hachem, David HaMelech, il les a composés comme ça pour que chacun puisse retrouver dans le Tehilim sa vie, ses infortunes, ses difficultés, ses joies. Donc c'est pour ça que c'est bien de lire le Tehilim, mais c'est encore mieux de le lire avec la traduction. En tout cas, quand demain vous lirez ce verset, « Mon père et ma mère m'ont abandonné et Dieu s'est occupé de moi ». Jamais mon père m'a abandonné. Vous comprenez? Le Midrash, il dit de quoi ça va? Et ça, vous voyez toute la force des Chachamim. Les Chachamim, ils ont l'œil sur tout et ils ont peur de rien. D'accord? Sachez une grande règle. Ils n'ont jamais de tabou, ils craignent rien et ils parlent franco. Le Midrash dit, tu sais de quoi ils parlent? Ils parlent de la conception d'un être humain. La conception d'un être humain, comment ça se passe? Il y a un papa, une maman, d'accord, qui font la mitzvah d'avoir des enfants. Puis après, chacun se repose dans son coin, ils sont fatigués, et ils ont abandonné une pauvre goutte de je sais pas quoi en plein milieu, qui doit se débrouiller tout seul. Il dit comment, après ils vont tous, comme ça dit le Midrash, ils ont été ensemble, après ils se retournent tous les deux pour dormir, et moi je reste seul, abandonné. Qui s'occupe de moi à ce moment-là? C'est Hachem. Donc en réalité, c'est un joli verset. Qui a vu Vimi Azavoni, Vadno Yasveni, c'est Dieu qui m'a recueilli. Et ça, c'est le démarrage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le démarrage de ce premier monde. Ce premier monde dans lequel où personne s'occupe de la croissance de cet individu qui grandit pendant 9 mois jusqu'à devenir un individu indépendant. Et là-dessus, Hachem, il mérite une louange pour tout ce qu'il a fait pendant ces 9 mois. Donc c'est là-dessus que Shlomo, il a dit que son père, il avait ouvert sa bouche avec sagesse en disant ce premier Baruch Nafshi, Bechol Kerava et Shem Kodesho, toutes mes entrailles louent le nom de Dieu. Ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde, Yatsa l'Avir Haolam. Il est sorti à l'air du monde. C'est-à-dire que dès que l'enfant y sort, Venistakel bekochavim ou bemazalot, et il regarde les étoiles et les astres, veamar shira, il dit une louange. Alors, je vous répète encore que c'est pas chronologique, parce que le bébé dans le ventre, il dit pas de louange. Quand il sort aussi, il voit pas tout de suite les astres. Mais c'est une expression, ça veut dire que c'est un nouveau monde. C'est quoi ce nouveau monde? C'est le monde de la nature, le monde des astres, le monde des influences astrales. Donc il dit qu'une fois que l'enfant est sorti, quelque part il n'est plus sous la protection divine, il est dans un monde qui est un monde, le monde de la nature. Et là-dessus il dit une shira, où tous ces astres fonctionnent, ils ont une influence sur l'être humain. Vers Marshira, et sur cette deuxième phase, où David Ameler il s'est rendu compte a posteriori, là-dessus aussi il a dit une shira, chez Neymar, comme c'est marqué, Barichu Hashem Malachav, bénissez l'Éternel Malachav, ses anges, Gibor Ekoar Osez Devaro, les puissants qui accomplissent la parole d'Hashem, Lishmoa Bekol Devaro, et qui écoutent sa voix, c'est-à-dire qui obéissent à sa voix, c'est le fonctionnement inaltérable et continu des astres qui suivent leur parcours, Barichu Hashem Kol Tsevaav, bénissez Dieu toutes les armées. Et donc on voit de nouveau ce verset-là où David Amela, c'est aussi la suite du Tehilim, où il bénit Hachem pour le fonctionnement des astres. Troisièmement, la troisième phase, Yanak Mishede Imo. Alors ici, vous allez voir aussi, c'est encore... il faut prendre l'habitude de la formulation des Chachamim. Le troisième monde sur lequel il s'arrête, c'est l'allaitement. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a l'allaitement de spécial? Il dit, Yanak Mishede Imo, il a tété le sein de sa mère, donc le roi David, Venistakel Bedadea, et il a contemplé ses seins. D'accord? Quand il était grand, il a réfléchi sur l'allaitement, sur le monde de l'allaitement. Et qu'est-ce qu'il a réfléchi? Bien sûr que c'est beau. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus extraordinaire. Mais il a réfléchi une chose que, là aussi, il n'y a que les Chachamim qui peuvent réfléchir là-dessus. Ve'amar Shira, il a dit une louange sur l'allaitement. Quelle louange? Chez Neymar, comme c'est marqué, Barchi Navshi et Hashem ve'al Tishkechi Golgemulav. Que mon âme bénisse l'Éternel qui n'a pas oublié Golgemulav tous les... Normalement, Gemoul, c'est les bébés qu'on sèvre. Donc, c'est les bébés qui passent toute la phase de l'allaitement. Et donc, Hachem n'oublie pas les bébés qui sont sevrés. Ça veut dire qu'une fois que le bébé, il a fini de téter, c'est-à-dire qu'Hachem, il s'est occupé de lui jusqu'à lui donner une autonomie. Pendant les 9 mois, il y a qu'Hachem qui s'occupe de lui. Une fois que le bébé, il sort, il est encore rien du tout. Et bien, Hachem, il a mis cette force dans la maman de l'allaiter, jusqu'à ce qu'ils deviennent petit à petit autonomes. Ça veut dire que c'est là-dessus, Béhémet, qu'avec du recul, c'est vrai qu'Hachem, il a créé un drôle de monde, qu'il crée des êtres, c'est pas comme les veaux, comme des poussins. Jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans, 8 ans, on est pieds et poings liés, on peut rien faire. Si on n'a pas un père et une mère, on peut rien faire, on peut pas manger, on peut pas marcher, etc. Donc en réalité, Hachem, il a créé le monde, il a donné cette chokhma. Au mois de la grossesse, il a donné cette chokhma dans l'allaitement, il a donné ce chesed, cet amour aux parents pour aider l'enfant à grandir, mais tout ça en réalité, c'est la main armée d'Hachem. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'allaitement? En dehors de l'allaitement, il dit, Maïkol Gemulav, ça veut dire quoi, ce sevrage-là? Amar Rabbi Abaou, il dit ce qui a étonné le roi David, She'asal Adadim Bimkom Bina. C'est qu'Hachem, il a créé la poitrine de la femme à l'endroit de l'intelligence. Ça veut dire qu'à la différence au niveau du cœur, à la différence de tous les animaux où les mamelles, elles sont dans la partie basse du corps, chez les vaches, tous les animaux, enfin, sauf les simiens, etc., les singes, mais la plupart des animaux, ils ont les mamelles dans la partie basse du corps, près des organes génitaux. D'accord? Et chez l'humain, c'est pas comme ça. La preuve, c'est que une maman qui allaite, c'est pas impudique. Il y a des halakhot dans la pudeur, etc. Mais on pourrait faire la tefila devant une maman qui allaite, bien que normalement, tout endroit caché de la femme, on ne peut pas faire une bracha, d'accord? Mais l'allaitement désimpudise la poitrine de la femme. Et bon, bien sûr, pas un étranger, même un étranger, un père, un mari, etc., il peut faire. Pourquoi ? Parce que ça se désimpudise, ça devient quelque chose de naturel. Mais le roi David, il a dit, il y a quelque chose d'extraordinaire, et c'est ça qui l'a étonné, c'est que le chesed d'Hachem, il est entouré d'intelligence, et que même l'allaitement, Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait une chokhma dans l'allaitement, et que cet allaitement, il soit plus proche de la bina, donc plus proche des endroits de la réflexion, que des endroits physiques, des instincts les plus naturels. Ok ? She'asal adadim bimkom bina. Kakadosh Baruch Hu, il a fait sa poitrine à l'endroit de l'intelligence. L'intelligence, c'est le cœur. Parce que c'est le Alev Mevin, c'est le cœur qui comprend. Et la Gemara dit, mais pourquoi il a fait ça? Tamamai, mais pour quelle raison? Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, Kedesh lo yistakel bimkom erva. Pour que même petit, ça veut dire même alors qu'il est encore qu'un nourrisson, il n'ait pas le regard sur des endroits impudiques. Ça veut dire que même plus tard, quand il se rappelle de la période et de sa mère de laquelle il a allaité, eh ben il a allaité dans un endroit qui n'est pas un endroit, qui est un endroit privé de sa mère. Il a allaité dans un endroit qui est la générosité de sa mère. Bon, alors bon, il y a le dip, il y a toutes ces choses-là, on ne va pas rentrer dans des choses compliquées. Mais en réalité, que ça ne dérange pas un humain de regarder sa mère, d'accord, parce qu'il a allaité dans un endroit qui n'est pas un endroit privé, on va dire. Ok ? Et donc là-dessus, le roi David, il a fait un mizmor spécial parce qu'il voyait la chokhma dans le chesed d'Hachem. Rav Matna Amar, Rav Matna, il a dit qu'il est inad bimkom atinofet, pour pas qu'il tète dans un endroit qui est moins propre que la poitrine. C'est plus propre. Les animaux, ça ne les dérange pas. Donc en réalité, si on voit les trois mondes qu'on a vus, bon, ça demande une réflexion parce qu'on n'aurait jamais partagé la vie d'un homme comme ça. Mais les trois mondes qu'il a vus, c'est un, le monde in utero. Ça, c'est normal. Si vous deviez partager votre vie, un, c'est le monde in utero. Deux, c'est quand on sort, qu'on voit la structure du monde, les étoiles. C'est la vie astrale dans le sens où, bon, on n'a plus maintenant cette chokhma, mais dans la Torah, en tout cas dans la Gemara, elle sait très bien que le monde, il est géré par les astres. Il y a une influence astrale. L'astrologie, d'accord ? Ça existe dans la Torah. En réalité, ça existe même dans le monde des Goïm. Seulement, ça a été repris par des charlatans, donc il n'y a plus. Mais normalement, la Gemara dit qu'il y a une influence des positions astrales et que quelqu'un qui naît sous telle étoile et telle étoile, ça a une influence sur la personne. D'accord ? Et donc ça, David Ameller, il a fait une louange là-dessus parce que finalement, c'est une sorte d'orientation de sa vie, cette influence astrale. En trois, le troisième monde, c'est l'allaitement. C'est quoi l'allaitement ? L'allaitement, c'est s'apercevoir, on va dire, autant l'influence astrale, c'est quelque chose qu'on va, on va traduire ça, l'ashgacha klalit. Vous rappelez qu'on a parlé souvent de ça, et l'ashgacha pratit et l'ashgacha klalit. L'ashgacha klalit, c'est la providence divine dans son caractère le plus large. Ok, l'influence astrale, c'est quelque chose qui a une influence sur le monde entier, le fonctionnement des astres. Par contre, l'ashgacha pratit, c'est le détail de la providence divine, pourquoi la fleur elle est comme ça quand on regarde les pistils d'une fleur, pourquoi le nez il est comme ça. Et ça, c'est pas des questionnements qu'on a l'habitude de poser, mais c'est des questionnements que la Gemara, que le Zohar demande. Pourquoi on a deux yeux et un seul nez en deux narines? Pourquoi on n'a qu'une bouche? Pourquoi Hachem il a fait le monde comme ça? Pourquoi les oreilles sont comme ça? La Gemara elle développe ces questions, le Zohar en particulier développe des questions. Il y a une relation mystique, mais il y a aussi une chokhma dans chacune des choses que Hachem a créées. D'accord ? Et la Gemara, ça ne la dérange pas de demander des choses les plus loufoques. Vous voyez, comme ici. Pourquoi la poitrine est là-haut ? Bah, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on ne va pas vous réfléchir sur la position de la poitrine par rapport au cœur, vous allez dire, mais c'est comme ça que tu me poses des questions bêtes comme ça. D'accord ? Pourquoi Hachem il a fait comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça. Et pourquoi on a un nez qui est proéminent, etc. Toutes les questions, tous azimuts, le Zohar y demande, la Gemara demande, et elle y répond. Et il y a une chokhma. Dans chacune des choses, il y a une chokhma. Pourquoi Hachem, il a créé le monde et le corps comme ça. Et ça s'appelle de l'ashgacha pratit. C'est une providence dans le détail. Et donc là-dessus, David Amelech, il a donné une louange. Il faut beaucoup de chokhma pour percevoir l'intelligence qu'il y a dans le détail de la nature. D'accord ? quatrième monde. Vous êtes bon? On est 2, 4, 6 lignes avant la fin du paragraphe. Ra'ab et Mapalatan shel Rechaim. Le quatrième monde qu'il a vu, et sur lequel il était nécessaire de donner une louange, c'est quand il a vu la punition des méchants. C'est-à-dire la punition des méchants, c'est quelque chose qu'on attend tous, ça veut dire qu'on reste toute notre vie à se dire, mais quand est-ce qu'ils vont recevoir leur dose, soit les méchants individuels, soit les méchants collectifs que le peuple juif a vécu, mais on aimerait bien le voir. Parce qu'on se dit, bon, c'est bien gentil de nous dire qu'ils seront punis dans Olam Haba, mais on se demande, la question, on se demande toujours, mais comment faire pour punir à la hauteur du mal qu'ils ont fait? J'imagine que c'est une question qui turlubine tout le monde. C'est-à-dire, d'accord, Hachem, je lui fais confiance, il va les zigouiller. Mais s'il va les zigouiller une fois, il faudrait les zigouiller 1000 fois, 10 000 fois, je sais pas quoi. D'accord, après, c'est pas notre problème, je veux dire, ça changera pas les choses, vous allez me dire. Mais on aime, c'est pas qu'on aime, on a besoin de savoir que le mal est puni. Eh bien, David HaMelech, il dit, il y a un monde, il y a une phase dans la vie où il y a des instants dans la vie où on voit la punition des Rechaïm. Eh bien, là-dessus, et donc là aussi, c'est un quatrième monde. Pourquoi c'est un quatrième monde? Parce que c'est un monde où Hachem, il intervient dans le monde. Dans tous les autres mondes, c'est la nature, d'accord? C'est tout le domaine de la nature. La vie in utero, le monde astral, l'allaitement, c'est-à-dire l'ashgaha pratit, tout ça, bon, on peut vivre très bien sans mettre le tampon d'Hachem là-dessus. Par contre, quoi?
Comme dans in utero, mes parents m'ont abandonné et c'est Hachem qui s'est occupé de moi.
Oui, ça c'est ce que David HaMelech il dit. Mais le monde il vit pas comme ça. Le monde il dit c'est la nature, quoi. Ça fonctionne tout seul. Tout fonctionne tout seul. On est habitué à ce que le monde entier fonctionne tout seul. Le soleil, la nature, les plantes, les graines. D'accord? La Gemara elle s'arrête. La Gemara dit mais où t'as vu? Où t'as vu? Combien? La Gemara dit d'où? Tu veux une allusion à la résurrection des morts? La Gemara dit oui, je vais te dire. Tous les paysans du monde, ils devraient croire à la résurrection des morts. Ils prennent des graines, ils les mettent dans la terre. Et la graine pourrit. Elle passe 6 mois, elle est pourrie avec de l'eau, et hop, elle ressort. D'accord? Et ça étonne personne. Et ça fait des siècles que c'est comme ça, que les graines rejaillissent et regerment. Et pourquoi ça vous étonnerait que les morts, ils se relèvent, dit la Gemara? On les met dans la terre, ils prennent l'eau, ils pourrissent, et viendra le moment où ça ressortira. Ça étonne personne, la graine, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, mais tu comprends, c'est les acides aminés qui se disloquent, qui se recomposent, patati, patata, c'est le cycle de la nature, d'accord. Mais parce qu'on n'a jamais vu. Mais si on voyait les morts se relever tous les ans, ben on dirait, il n'y a pas de problème, on les enterre, ils vont ressortir. Donc la Gemara dit, en vérité, on a un regard juste qui est faussé sur le fonctionnement de la nature. La même chose, je dis, c'est Dieu la vie in utero, mais qui c'est qui se préoccupe de dire que c'est Dieu la vie in utero? Personne regarde les choses comme ça. C'est la maman, on félicite la maman qui s'occupe bien du bébé. Mais tout fonctionnement du monde, d'accord? Et donc, dans le quatrième monde, c'est un monde déjà un peu plus mystique, où Hachem, il intervient, d'accord? Alors c'est rare, oui, c'est rare que les méchants, ils prennent leur dose, d'accord? On aimerait bien, on se dit l'Ukraine, est-ce que c'est pas l'Ukraine, c'est pas quelque chose qui se passe, est-ce que si, on est tous dans l'attente, dans les grands bouleversements qu'on voit dans le monde, on se dit oui, c'est le prochain tremblement de terre, c'est pour l'Allemagne. Et chacun, il dit comme ça dans sa petite tête. En tout cas, David HaMelech, il a dit, Ra'ab et Mapalatan shel Rechaim, quand il a eu le mérite de voir dans sa vie la chute des méchants. Parce que David HaMelech, il a vu des gens qui lui ont voulu du mal et qui ont chuté. Je vous raconte juste, entre guillemets, une histoire du Chafetz Chaim. C'est pas une belle histoire. Mais pour dire que ce que chacun, les mauvaises pensées qu'on a chacun au fond de nous, elles ont une réalité. Le Chafetz Chaim, il dit, quand il était petit, il se rappelle à Radin, il y avait une femme, une veuve, qui avait un petit enfant, et qui habitait dans une maison, bon c'est les maisons de l'époque, qui louait un appartement. Et cette femme-là, elle n'a pas eu de quoi payer son loyer. D'accord? Il était petit. Et le type, un juif, il est venu, il a fiché dehors, il a dit, mais il y a l'hiver. Il a dit, je ne veux rien savoir, tu ne vis pas dehors. Il l'a fiché dehors, il a fallu qu'elle prenne d'un endroit à l'autre, sans toi. Il dit, j'étais petit et je me suis toujours demandé comment on peut être aussi méchant et pourquoi Hachem il s'occupe pas de cette personne-là, il lui envoie pas une crise cardiaque directe. D'accord? Les grands méchants, ils devraient mourir. Il n'y a pas de raison. Et il dit, j'ai toute ma... Et c'est drôle, hein, toujours ça m'a étonné. Je vais vous montrer, il écrit dans le texte, il écrit dans Chafetz Chaim à la Torah, il a dit, j'ai attendu toute ma vie de voir quelle serait la punition d'autant de méchanceté. Bon, il y a des plus méchants que ça. Et il a dit, les années ont passé, j'ai grandi, etc. Il dit, ce type-là, il y a eu une épidémie, et il y a eu une maladie, une épidémie, comment on appelle ça, des maladies comme la peste ou le choléra, enfin un truc comme ça, très contagieuse, d'accord. Et son fils est mort d'une épidémie, d'une maladie contagieuse. Et personne n'a voulu s'occuper d'enterrer son fils, parce que c'est tellement contagieux qu'il en laissait. Il a dit, je me rappelle, moi, j'ai vu ce type-là enterrer son fils, mort d'une maladie contagieuse. Il dit, je ne sais pas quels sont les plans d'Hachem, mais en tout cas, moi, ça m'a mis du baume au cœur, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas des choses qui passent comme ça, sans punition. Alors, ça n'a que... je ne vous l'aurais pas raconté si ce n'était pas le Hafetz Chaim, parce que on peut toujours se... on dit toujours, on dit et lui, il y en a plein qui sont morts sans rien, tranquillement, dans leur lit. Mais c'est pour dire que cette idée-là d'attendre la punition du rachat, c'est quelque chose qui est normal. Même le Hafetz Chaim, il a attendu ça. Et c'est tellement important qu'il l'a écrit. Et donc la Gemara dit que David Amalek, ce n'est pas toujours qu'on voit que les gens qui nous ont fait du mal sont punis. On dit toujours, les mamans toujours, elles disent, enfin, ne t'inquiète pas. Dieu, il s'occupera de lui. D'accord, c'est un vieux proverbe sfarade. Dieu, il va s'occuper de lui. Bon, je te fais confiance en ce moment que Dieu va s'occuper de lui. Mais des fois, je vois, des fois, je ne vois pas. Donc, quand David Ameler, il a vu ça, Ram et Paladam Shel Rechaim va marchira sur ce quatrième monde, qui est un monde, on va dire, de la justice, non pas un monde de la nature, non pas un monde de la Hashgacha, mais dans la Hashgacha, de l'Hashgacha pour remettre les choses à leur place. Eh bien, David Ameler, il a dit une Shira. Comme il dit, Shenemar, Itamu Chatai Minaret. Ils disparaîtront. Et voilà, vous voyez pourquoi c'est le verset qu'on avait vu la dernière fois avec que Broria, la femme de Rabbi Meir, vous rappelez, elle a dit à son mari, voilà, c'est pas marqué que c'est les méchants qui disparaîtront, c'est les fautes. Et donc, mais le Pshat, Itamu Chatai Minaret, elles disparaîtront les fautes de la terre, Urshaï Modenam, il n'y aura plus de rachat. Mon âme bénira l'Éternel. Donc on voit que encore une quatrième fois, il y a cette expression de Barinavshi, c'est mon âme qui loue. Et le fait qu'il répète comme un leitmotiv, mon âme loue, sur quatre situations différentes, on va voir la cinquième, eh bien ça montre que pour lui, c'était quatre choses différentes. Bien sûr qu'on peut louer Hachem toute la journée sur les bienfaits qu'il nous fait, mais il faut repérer des choses importantes dans la vie pour le bénir là-dessus. C'est ça qu'il a fait. Ça peut être ça, un monde.
Je ne vois pas. C'est pas les autres, c'était des étapes dans la vie.
Oui.
Et là, ce n'est pas une étape.
Si, c'est une étape dans la vie où il a pu voir... Parce que c'est
une prise de conscience.
Ou une prise de conscience ou un chesed. Parce que tu peux passer ta vie sans rien voir. Ou Hachem, il ne te donne pas la capacité de voir ou il ne te montre pas. Donc en réalité, c'est comme une dimension. Voilà. C'est une dimension auquel il a accédé. Il y a une dimension où tu arrives à voir, où Hachem il te montre, où il t'ouvre les yeux, où il te montre. Parce que souvent on peut voir des gens qui font du mal et tu as l'impression qu'ils ne sont pas punis. Mais il y a une dimension où Hachem il te permet de voir ça. C'est ça qu'il appelait un monde. Ce n'est pas forcément des étapes qui se recoupent, tu vois, mais c'est des prises de conscience de choses importantes. D'accord ? Et cette punition, et c'est pour ça que je vous rapporte ce qu'il a dit Hafetz Chaim, cette prise de conscience, arriver à le voir, d'accord, c'est important pour l'individu de le comprendre.
C'est si important que ça, les Rechaïm, de comprendre les Rechaïm.
Non, de voir qu'il y a une justice. De voir qu'il y a une justice et que les choses ne restent pas impunies, ça t'aide aussi pour toi. Et que les gens, que tout le monde rend compte, rendra compte de ses actions. Ça, parce que pour nous, c'est une émouna. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit. On est ma'amine que chacun d'entre nous rendra compte de ses actions. Tu vois ? Et que les méchants rendront compte de leurs actions, mais c'est une émouna. Lui, il a vécu ce monde-là. Et enfin, le cinquième monde. Vous êtes bon ? Bon, d'ailleurs, tu voulais sur Rosh Hashanah, voilà, ça me donne les pierres. Sur Rosh Hashanah, ça va arriver. Le cinquième monde, d'accord ? Donc c'est intéressant de dire. C'est tout à fait, c'est des mondes à la Prévert, comme je dis toujours, hein. C'est des trucs, tu te dis, mais comment, pourquoi on a fait ces cinq mondes? J'aurais jamais dit cinq mondes comme ça, j'aurais dit l'enfance, l'adolescence, le ciel, tout ce que vous voulez. C'est rien à voir. Le cinquième monde, c'est Nistakel Beyom Amita. C'est quand David Ameler, il a contemplé le jour de la mort, Il dit, le jour de la mort, c'est quelque chose de grand. La preuve en est, c'est à marche. Et il a dit un chant, Shira, d'accord, une louange. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bachi Navshi et Hashem, que mon âme bénisse Dieu, Hashem Elokai Gadal Tameod, l'éternel mon Dieu, Gadal Tameod, tu es immense, Hod Verdar Lavashta, tu es habillé de splendeur. Ça veut dire, il y a, au jour de la mort, peut-être que c'est que pour les tzadikim, je ne sais pas, en tout cas, le roi David, il a pris cette conscience de la grandeur d'Hashem au jour de la mort. Alors, c'est quoi le jour de la mort? C'est marqué que, et ça va nous rapporter un peu à Rosh Hashanah, que, on avait dit ça, que à chaque année, les jours de l'année forment un entonnoir. D'accord? Il y a l'entonnoir de la semaine, l'entonnoir des jours et l'entonnoir de l'année. Aujourd'hui, on est mardi, on en a parlé, je crois, ensemble, peut-être. Ouais, c'est peut-être ouais. Je ne sais pas si c'est ici ou ouais. Du matin. Que les jours de l'année, ils forment un entonnoir. Tous les jours de l'année 5783, ils se concentrent dans ce mardi, tous les mardis. Et demain, c'est tous les mercredis. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est-à-dire vendredi, qui est la veille de Rosh Hashanah, va se concentrer tous les jours de l'année 5783. C'est normal, c'est le jour du bilan. Mais c'est aussi le jour où on va, où on doit normalement récupérer si on fait un bilan. C'est pas seulement des fautes. Quand on dit bilan, c'est bilan des choses bien qu'on a faites. D'accord ? Les erreurs, bien évidemment, mais c'est surtout des choses bien, des choses qu'on a construites, des choses qu'on a mis en avant, et c'est ce jour du bilan. Eh bien ça, c'est le bilan de l'année, ça c'est la veille de Rosh Hashanah. Le bilan de la vie, c'est Yom Hamita. Normalement, le Yom Hamita, toutes les choses positives que l'individu il a fait au cours de sa vie, il les récupère le jour de sa mort. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une relation avec Hachem très forte, c'est ce qu'il dit. Hachem Elokai Gadal Tameod, je te vois très grand, Od Dadar le Bashta, tu es entouré de splendeur. Et c'est marqué dans les Sfarim que ça, c'est le jour de la mort, parce que le jour de la mort, c'est comme si l'homme il percevait la présence d'Hachem de façon très puissante. Tous les efforts, que non, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des choses qui nous rapprochent d'Hachem. D'accord ? Ça devrait nous rapprocher d'Hachem. Bien sûr que quand on fait les mitzvot, on a l'impression de faire ce qui nous est ordonné. Mais en vérité, Hachem ne nous a pas donné des ordres juste pour qu'on les réalise. Il nous a donné des ordres qui doivent nous rapprocher de lui. Quand on met les tefillines, chaque fois ça doit nous rapprocher un peu de lui. Quand on fait des mitzvot, chaque fois ça doit nous rapprocher. Et quand on fait la somme de tout ça, qu'on entasse tout ça, eh bien on doit sentir une grande proximité avec Hachem. Et cette grande proximité avec Hachem, c'est ça le jour de la mort. Parce qu'en réalité, la mort, elle dit la Gemara, pour les tzadikim. Bon, c'est ça, il faudra faire des nuances. Pour les tzadikim, la Gemara dit, c'est comme tu approches une allumette d'une bougie. Tu approches, et à un moment, plouf, ça se colle. D'accord ? C'est comme ça, ça fait une seule flamme. Eh bien, la mort, normalement, pour les tzadikim, c'est ça. Ils sont tellement proches d'Hachem, qu'à un moment, leur âme, elle est tellement proche qu'elle va se fondre avec l'infini d'Hachem. Et pourquoi ? Parce que le jour de la mort, un homme, normalement, il a la conscience de tous les bienfaits qu'il a faits, et il ressent la présence d'Hachem proche, et elle devient tellement proche qu'à ce moment-là, la mort symbolise simplement ce contact et ce rapprochement de l'âme avec Hachem. Donc ce n'est pas quelque chose de dur. Et la Gemara dit, c'est ça la différence des différentes morts. Pour les gens qui ne sont pas de tzadikim, ou qui n'ont pas fait des efforts dans la vie, leur âme, elle est très fortement attachée avec leur corps. Elle ne veut pas partir. Par contre, pour des gens qui ont fait des choses bien dans leur vie, tous azimuts, hein, et on ne peut pas savoir c'est quoi les choses bien qu'on a fait dans sa vie, mais tous azimuts, eh bien, leur âme, elle est bien dans ce corps, parce que c'est ce corps qui permet de faire des mitzvot. Mais d'un autre côté, l'âme, à un moment, elle demande à se rapprocher de la source. La Gemara dit, pour imager les deux choses, la Gemara dit, l'âme d'un tzaddik, quand elle s'en va, c'est comme quand tu enlèves un cheveu du lait. Quand tu tires un cheveu du lait, flou, il s'en va facilement. Comme une allumette se rapproche d'une flamme. Il y a une fusion qui se fait. Par contre, l'âme du rachat, quand elle s'en va du corps, c'est comme une corde, ou comme un vêtement qui est accroché dans les ronces. Il faut tirer. L'âme, elle a du mal à s'extirper. C'est pour ça qu'il y a une souffrance possible au moment du décès. Ou bien comme une corde qui est dans un anneau mouillé, que ça ne veut pas sortir. Ça veut dire que, pourquoi l'âme, elle ne voudrait pas sortir ? Soit parce que l'âme, elle n'a pas terminé son travail, que elle avait des choses à faire et que le corps lui a pas permis, les passions du corps lui ont pas permis. Soit parce que l'âme aussi, il y a un moment où l'âme, enfin, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux dans l'âme, il y a 5 niveaux dans l'âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les 5 parties. Vous savez que l'âme juive, enfin l'âme dans son ensemble, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Vous avez 5 parties. Le Nefesh, c'est l'âme vitale, d'accord, qui est véhiculée par le sang. Le Ruach, c'est ce qu'on appelle le souffle, c'est plus le sentiment, d'accord. Et donc, après, la Neshama, c'est l'âme spirituelle. Et après, vous avez 2 niveaux qui sont la Chaya et la Yechida, 2 parcelles de l'âme, qui sont des parcelles qui sont potentiellement découvrables, mais qui, chez le commun des mortels, sont en sommeil. D'accord ? Ce sont des parcelles de l'âme qui le rapprochent très fort d'Hachem. La plupart des gens dans le monde, ils vivent avec le Nefesh. Le Nefesh, c'est l'âme animale. D'accord ? Et la plupart du monde entier vit avec le Nefesh. C'est ce qui permet de faire les besoins vitaux. Après, le Ruach, c'est ce qui exprime les sentiments. C'est déjà un niveau un peu plus élevé. D'accord ? C'est comme si vous allez monter dans l'échelle du corps. C'est d'ailleurs le cœur. D'accord ? Ensuite, vous allez la Neshama. La Neshama, elle est dans l'esprit. La Neshama, c'est ce qui est de l'ordre du spirituel. Et après, la Chaya et la Yechida, c'est des échelons dans le monde spirituel beaucoup plus élevés. La Chaya et la Yechida. Et ce sont des échelons qui se révèlent rarement chez l'homme, sauf éventuellement le jour de Kippour à la Neila, comme ça on dit. Chaya, c'est l'âme vitale. La Chaya, c'est la vie, et la Yechida, c'est unique. Yachid. C'est l'âme, c'est la parcelle de l'âme qui est la plus proche d'Hachem, qui l'amène vers l'unité avec Hachem. Et donc, cette Yechida, ces 5 mondes-là, d'accord, correspondent, ces 5 parties de l'âme correspondent aux 5 mondes qui sont décrits par le roi David. Et le dernier monde, qui est le monde de la Yechida, c'est celui qui se dévoile le jour de la mort si l'homme il a été tzaddik et qu'il arrive à faire. Il arrive à faire briller toutes les petites diodes qu'il a allumées au cours de sa vie. Quand il arrive à faire briller tout ça, alors ça révèle un monde qui fait qu'il n'a pas peur de mourir. Ok ? Et donc c'est ça les 5 mondes. Le monde in utero, le monde astrologique, le monde de l'allaitement de la Ashgacha Pratit, l'autre c'est la Ashgacha Kallit, le monde de la punition des Rechaïm, la dimension on va dire, et le jour de la mort, qui est une sorte de collecte de tous les jours de sa vie. Ok ?
Le septième monde ne concerne pas l'homme, finalement. À propos, ce n'est pas l'individu, plutôt.
Oui, oui.
Le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, ok, ça concerne la personne elle-même.
Oui.
Son existence.
Oui.
Le quatrième, ça concerne le monde de sa justice.
Eh bien, si, parce qu'un homme, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de Rav Israël. Il a besoin de ça. Il a besoin de savoir qu'il y a une justice dans le monde. Tu comprends, c'est bien de faire les mitzvot. Et c'est pas passé là, tout ce que le peuple juif a traversé, tout ce qu'on a traversé personnellement, ça reste là. Donc on a suffisamment d'émouna, le peuple juif, il est bardé d'émouna, il peut traverser l'eau et le feu, le peuple juif. Avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas de problème d'émouna, le peuple juif. Mais ça reste des questionnements. Il y a des questionnements sur l'ensemble du peuple, des questionnements sur l'individu, pourquoi c'est comme ça, etc. Tout c'est pourquoi il y a un monde dans lequel il y a une réponse. Et ce monde-là, David Amelech, il a percé ce monde-là, et là-dessus, il a donné une shira. Il a dit, j'avais raison d'avoir Emouna. Tu comprends ? On a besoin de ça pour avancer. D'accord ? Et donc, le dernier monde, c'est le monde de Yom HaMitah. Et la Gemara demande, mais imajma d'al Yom HaMitah Nehemar. Et d'où tu sais que c'est dit sur le jour de la mort, Amar Rabba Barav Shila, Rabba Barav Shila, il a dit, mais c'est Vedeïniana. Dans la fin du verset, c'est marqué, Tastir Panecha Iba Elun, Tastir Panecha, si tu caches ta face, Iba Elun, ils vont avoir peur, Tosaf, Tosef Rucham Igvaun. C'est-à-dire que si Hachem, il cache, regardez ce verset qui est très intéressant. Donc c'est aussi un verset de mon Teilim. Donc c'est la suite du Teilim. Il dit ceci, c'est le 104, le 103 et le 104. Taster panera, si tu caches ta face, Iba Elun, ils vont être abasourdis, ils vont avoir peur. Tosef s'affoler. Si Hachem cache sa face au moment de la mort, alors les gens vont s'affoler, parce que c'est un moment terrible, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Tosef Rucham, mais si tu rassembles leur souffle, Igva Un. Ils vont périr doucement, c'est-à-dire que si c'est plus un moment où Hachem se cache, mais un moment où au contraire, il vient récolter leur souffle, d'accord, c'est comme on a dit, les flammes qui se collent, Igvaoun, ils mourront, Valafaram et Shuvun, ils retourneront à la terre en tranquillité. Donc on voit que la peur qu'un homme il peut avoir au moment du décès, c'est cette peur de l'inconnu, c'est pas où il va aller. Alors que si Bémet, il y a un dévoilement d'Hachem le jour de la mort, comme doit l'être le jour de la mort du tzaddik, eh bien à ce moment-là, il n'a pas peur de mourir. Ok ? Voilà, un petit peu encore. Vous êtes bon ?
Oui.
Rav Shimi bar Ugba, encore 5 minutes. Donc, Rav Shimi bar Ugba, ve amrela yenagdi, c'est mort Ugba. C'est mort Ugba qui s'appelle comme ça. Avash chiyar kamed Rabbi Shimon ben Pazi, il avait l'habitude d'étudier chez Rabbi Shimon ben Pazi. Vamamesader agadta, et il présentait la agada. Vous savez que dans la Gemara, il y a la partie halacha et la partie agada. Nous, le Haïn Yaakov, c'est une compilation des agadotes du Talmud de Babylone. C'est plus narratif, c'est pas de la halacha. Et donc ce Rav-là, c'est lui qui s'occupait de mettre en ordre la agada, Kamé de Rabbi Yehoshua ben Lévi, devant Rabbi Yehoshua ben Lévi. C'est lui qui a ordonné les chapitres, comme on a chez nous la mise en place des chapitres. À Marley, il lui a dit, j'ai une question. Maï dit Steve, pourquoi c'est marqué Bachi Navshi et Hashem, que mon âme bénisse Dieu, Bechol Keravai et Shem Kocho, et que mes entrailles bénissent son nom saint. C'est quoi cette histoire? Pourquoi les entrailles doivent bénir Dieu? En quoi il y a une bénédiction spéciale des entrailles? Alors Bémet, on l'avait vu dans le paragraphe précédent, où les entrailles, ça représentait la vie in utero. D'accord? Que mon âme bénisse Dieu en contemplant les entrailles, sans contemplant ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'homme. À Marlo, alors le Rav lui a répondu, bon, et viens voir. Shelo kemidat akadajuchu midat basar vadam. Qu'il n'est pas le comportement d'Hachem comme le comportement d'un être humain. Midat basar vadam, un être humain, tar tsura al gabe kotel. Il est capable de faire une forme sur un mur, un tableau, une sculpture. Veno yachol la'atil bo ruach unchama. Il n'est pas capable d'y poser un ruach, une neshama. Keravaim des intestins ben me'ayim. Vous voyez, si vous faites attention, oui, un être humain, il peut créer un dessin, et je vous ai rajouté même une sculpture, mais il n'est pas capable d'y mettre le ruach et la neshama. Il manque
Le nefesh,
c'est la première base, ok. Le nefesh, c'est ce qui donne, c'est la vie la plus matérielle, ok. Dans les commentateurs, c'est marqué qu'en réalité, nous, on ne sait pas, mais il y a des gens qui ont la capacité de mettre le nefesh dans un être, les fameux golems, d'accord. Le golem, c'est quoi? Le golem, c'est une statue en argile, dans lequel on dit, on impute ça au Maharal, il en avait fait un robot, d'accord. Mais c'était un robot qui ne pouvait pas parler. Il pouvait agir, il pouvait faire, il pouvait être manipulé, d'accord. Mais il avait juste une âme vitale, mais pas plus que ça. Il lui manquait, il n'avait ni la parole, d'accord, ni la réflexion. Il obéissait. Alors on dit, bon, il y a plein d'histoires, je ne sais pas si comptent les gens, des histoires qui courent là-dessus, que le Maharal s'en servait pour déjouer ses ennemis, etc., pour les goïms qui faisaient du mal aux juifs. Il se servait de ce golem-là, et qui serait dans les caves là-haut de la synagogue du Maharal. Et en tout cas, comment il a pu faire ça? Comme l'Agmara dit, qu'il y a des chachamim de l'Agmara qui étaient capables de donner vie, entre etc., de donner le nefesh à une chose inanimée, comme le golem. Mais il ne pouvait pas aller plus que le nefesh. Le roi, on ne pouvait pas faire un être parlant ou un être pensant. Un être, un robot, d'accord. Et l'Agmara a dit qu'ils étaient capables de faire des robots. Et c'est pour ça que dit qu'un être humain qui ferait une forme, il n'est pas capable d'insuffler ni le roi ni la chama. Mais Akadosh Baruch Hu enoken. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Tsar Tsura Betor Tsura. Akadosh Baruch Hu lui-même, il crée une forme à l'intérieur de la forme. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a façonné le fœtus, l'embryon et le fœtus, à l'intérieur d'une autre forme. Umatil Baruch Hu Nshama. Et il est capable de mettre non seulement le Nefesh, mais même le Ruach et la Neshama à l'intérieur d'un autre être. C'est-à-dire, l'être humain, il n'est même pas capable de donner vie à une statue qu'il aurait fait. Machem, il fait une statue dans un être vivant à laquelle il donne vie et il lui insuffle le roi et la neshama qui ravaim b'nemaï. Va'inu d'amra Chana, et c'est ça que Chana, Chana c'est la mère de Shmuel, d'accord? Dans sa tefila, quand elle voulait avoir un enfant, elle a dit En kadosh kashem ki en bintecha ven sur keloenu. C'est ce même verset, il dit il n'y a pas d'être plus saint que l'Éternel, Ken Biltecha, il n'y a personne à part lui, Ven Tsur Keloenu. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. C'est vrai qu'Hachem, on l'appelle Tsur, Tsur Israël de Goalo, on dit dans les Tfilotes. Mais il dit Maï Ven Tsur Keloenu. Pourquoi elle emploie ce mot de rocher? Parce que le mot de rocher, ça fait. Il y a une homonymie, En Tsayar, je suis passé à la page suivante, première ligne, En Tsayar Keloenu. Il n'y a pas de sculpteur, il n'y a pas d'aussi grand sculpteur. C'est comme Aïkien Biltera. Pourquoi on dit personne n'est comme lui? Amaravu d'abord Amnasia, Al Tikre qui en Biltera. C'est-à-dire qu'Ien Biltera, personne n'existe à part toi. Qui en Biltera, et la en Levalotera, personne ne peut t'user. C'est-à-dire, chez l'okemidad agadozuchum midad basarvadam. La réalité d'Hachem, elle n'est pas comme la réalité de l'humain. Midat basar vadam chez l'humain, maase yadav mebalinoto. L'œuvre de ses mains l'use. Ça veut dire ce qu'un homme fait, ce qu'un homme crée, a souvent plus de durée que le créateur. Le créateur, il est capable de créer des choses qui vont lui perdurer. Vakadajuru mevale maasav. Alors qu'Akadajuru, c'est lui qui use l'œuvre de ses mains. Tout ce qu'Hachem il a créé va à sa perte, c'est-à-dire s'use, alors qu'Akadosh Baruch Hu il reste inaltérable. Donc c'est pour ça que c'est marqué qui en biltecha, personne ne peut user Hachem. C'est-à-dire que les siècles passent, toutes les créations d'Hachem finissent par s'user, par disparaître, alors qu'Hachem lui il reste invariant. C'est ça qu'on traduit, qu'Akadosh Baruch Hu il est Meler Chai Vekayam. Meler c'est le roi. Donc une idée de pouvoir, chai, vitalité, kayam et d'invariance. Kayam, c'est quelque chose qui reste. Kayam. D'accord? Kayam le olme olamim. Or, la vitalité et l'invariance, c'est deux qualités d'Hachem qui peuvent s'opposer. Parce que la vitalité, après, ça s'use. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui... Enfin, comme en thermodynamique, là. Mm-hmm. L'énergie va vers sa perte. Alors qu'à Kabajoukou, non seulement il développe de l'énergie dans ce monde, mais c'est une énergie qui ne bouge pas, qui est constante. C'est pour ça qu'on dit Chai Vekayam. Il développe de l'énergie pour faire vivre le monde, mais lui-même il est invariant. C'est ça que Chana elle a dit, Ken Biltecha.
C'est ce qu'on dit de David aussi. David le fils d'Israël.
Chai Vekayam, tu as raison. Ouais. Alors, donc ça, c'est. Je termine ce paragraphe, après j'arrête tout, encore un tout petit peu. Alors, parce que.
Comme chez toi.
Ouais, non, bah, il faut. On a apprécié le dernier cours de l'année. Hein. Amar le alorav, il lui a dit Anachi Kamina. En réalité, moi, ma question, oui, elle était différente. J'ai compris ce que tu m'as dit, parce qu'il lui a demandé la question sur les Bachin Nafshi. Mais il dit moi, voilà ce que je voulais te demander. Anechamisha Bachin Nafshi. Les cinq Bachin Nafshi, Kedegenmi Amra David. Par rapport à quoi il les a dit? En réalité, donc c'est un autre âme qui va donner une autre réponse. Il faut réfléchir si les deux réponses se recoupent. Dans le premier paragraphe du Noun, on avait vu que les cinq Bachin Nafshi recouvrent les cinq mondes que le roi David a perçus dans sa vie, les cinq dimensions de l'existence. Et ici, cet autre âme qui va s'exprimer, il va dire une autre idée. Il dit « Lo Amran, et la Keneged HaKadoshuhu et Keneged HaNeshama ». Pourquoi ? Est-ce qu'il y a cinq louanges de l'âme? Oui. Cinq fois Bachin Nafshi. C'est vrai qu'il y a cinq mondes, mais on dit qu'en vérité, ces cinq louanges, c'est cinq louanges par rapport à Hachem et par rapport à la Neshama. Pourquoi? Ma Akadajuhu Melo Kola Olam, de la même manière qu'Akadajuhu il remplit le monde, Af Neshama Melat Kolagouf. Puisqu'on a dit Bachin Nafshi At Hachem, mon âme bénit Dieu. Le fait que mon âme bénisse Dieu, c'est qu'elle sent un lien, le fait de bénir Hachem par rapport à l'âme, c'est qu'elle sent un lien entre elle et Hachem. Comment? C'est que l'âme, elle se rend compte, de la même manière qu'Hachem, il remplit le monde, sa présence. Melo kolaret kevodo, il remplit le monde par sa présence, invisible, mais il le remplit. Af neshama mela kolaguf. L'âme aussi remplit le corps. Et elle est invisible. Et c'est ce qu'il dit. Ma akadosh ro roe venonir e. De la même manière que akadosh ro, il voit tout ce qui se passe dans le monde, venonir e, mais il n'est pas visible. Af neshama roa venanir it. L'âme aussi, elle voit le monde, venanirid, mais on ne peut pas la voir, on ne sait pas où elle est, le neshama. Comme je vous disais tout à l'heure, le sang est le support de l'âme. Mais l'âme elle-même, elle n'existe pas, parce que quand l'homme il meurt, le sang il est encore là, mais il y a quelque chose qui est parti. Le cœur est là, le sang est là, le cerveau est là, mais le circuit électrique il ne marche plus. Ce qui est parti, c'est la neshama. Ma kadoshru zan et kol haolam kulo, de la même manière qu'Hachem, il nourrit le monde entier. Af neshama zana et kol haguf. La neshama nourrit aussi le corps entier par le biais du sang. Ma akadosh baruch hu taor, comme akadosh baruch hu il est pur, c'est-à-dire il est, on peut pas l'abîmer. Af neshama teora. L'âme, elle reste teora malgré toutes les vicissitudes que l'homme il peut traverser. La neshama, elle reste totalement pure. C'est-à-dire, il y a une partie de la neshama. On peut salir le nefesh, on peut salir le ruach, mais mais la neshama, c'est ce qu'on dit tous les matins. Moi, Diane, il veut dire, neshama, shen, atatabi, teora. La neshama que tu m'as donnée, elle est teora. On ne peut pas l'abîmer. Et c'est pour cette raison qu'on peut toujours atteindre un juif, même très très loin, même très très sale, même très très abîmé dans les erreurs. Il y a une parcelle de lui qui est insalissable. Af neshama, teora. La même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est bechadre chadarim, il se cache totalement dans le monde. Af neshama yoshevet bechadre chadarim, l'âme d'un homme, elle est aussi cachée au plus profond de l'âme. Yavo, elle va venir, mishyesh bo chamishat varim, cette âme qui a ses cinq qualités, vishabeach le mishyesh bo chamishat varim alalu, et elle doit bénir Hachem, qui possède les mêmes qualités que l'âme. Donc c'est pour ça que dans ce Bachi Nafshi, il y a ces cinq Bachi Nafshi qui répondent aux cinq qualités de l'âme qui sont en corrélation avec les cinq forces qu'Hachem il a. Il remplit le monde, il est invisible, il nourrit le monde, il est pur et invariant, et enfin il est Bechadre Chadarim, il est totalement caché dans le monde, dans Chadre Chadarim, c'est-à-dire les dans les pièces les plus profondes du monde. C'est ça les qualités d'Hachem. Voilà, bon, c'est... On termine là-dessus avant Rosh Hashanah. Et Bémet, c'est sûr qu'il y a un lien. Il faut essayer de faire comme les... Oui. Comme les jeux d'enfants. Il faut faire le lien entre les cinq mondes de David Ameler et les cinq qualités d'Hachem qui représentent les cinq qualités de la Neshama. D'accord? Les saints, c'est la nourriture, etc. Hachem nourrit le monde. D'accord? C'est pour refaire les cinq mondes. Bon, voilà.
C'est Bachi Nafshi, c'est pas Bachi Nishmati. C'est Bachi Nafshi, on parle de Neshama.
Alors, en réalité, c'est une bonne question, mais souvent dans les textes, le mot Nefesh, c'est l'âme dans sa globalité. Il y a, et qui désigne les cinq, parce que l'âme, elle a cinq, c'est-à-dire pas pour cinq, il y a cinq choses. Il y a cinq parties dans l'âme. L'âme dans sa globalité, on l'appelle le Nefesh. Et après, quand tu la décortiques, il y a, si tu veux, la nefesh du nefesh, le roi du nefesh, la neshama du nefesh. Mais quand on dit l'âme humaine, c'est le nefesh. D'accord? Même la chaya et la yechida, elles sont incluses dans le nefesh. C'est un nom global. C'est la base, si tu veux, c'est le socle de toutes les cinq parties de l'âme. On est bon? Alors on se souhaite Shana Tova, une bonne année, beaucoup de brachot, beaucoup de santé. Et beaucoup de, pour nous et nos familles, pour tout le monde. Et qu'on se revoit mardi prochain dans la nouvelle année Tav Shin Pei Dalet. Avec le sourire et des bons décrets pour nous. Avec Anna Benakashur, Marazak, Jouro, les Akats, Fal, Fal, Rabem, Dom, Zot, Cinéma, Anna Hamet, Maman, Tiko, Yagdil, Torah, Veyadir.